Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Shalom Bourgogne, je suis ce matin avec M. Billy Chrétien, adjoint à la maire de Dijon, dont je vais rappeler les délégations, donc lutte contre les discriminations, délégué à l'égalité femmes-hommes, la laïcité et la fraternité. C'est un grand, beaucoup de sujets de société très importants. Bonjour M. Chrétien, merci de nous avoir rejoints à Shalom Bourgogne. Peut-être déjà rappeler rapidement le sens qu'a cet ensemble de délégations et faire le lien avec le dispositif Amacote, qui est une singularité particulière à Dijon.
Effectivement, comme vous venez de l'annoncer, c'est un sujet très vaste, parce que finalement, à travers la délégation, on ratisse à travers la société. Et il y a une certaine transversalité dans les délégations, c'est-à-dire que vous pourriez voir une certaine intersectionnalité, parce que parfois, on a tendance à vouloir opposer les discriminations entre elles. Et en fait, on ne comprendra jamais les luttes, je pense, si on les sépare. Défendre les droits des personnes LGBTQIA+, n'empêche pas de défendre la justice sociale. Défendre la justice sociale n'empêche pas de défendre le racisme. Et en fait, l'égalité, elle se découpe pas en morceaux. Et donc, voilà pourquoi cette délégation est si large. Et vous voulez que j'enchaîne directement sur la MACOB?
Alors peut-être, oui, nous parler de la MACOB, qui est un dispositif très particulier, spécifique à Dijon, à ma connaissance.
Complètement. Alors en fait, on a été la première commune à avoir créé un dispositif comme ça. On en a inspiré d'autres, mais je n'ai pas les noms en tête. Et de mémoire, on les a seulement inspirés parce qu'aujourd'hui, on est toujours une structure singulière, notamment parce que... alors elle a été créée en 2009, je ne sais pas si je l'avais dit. Et elle a vocation à lutter contre toutes les discriminations. Et elle repose sur deux instances. Donc on a une commission extra-municipale de lutte contre les discriminations, qu'on est d'ailleurs en train de composer actuellement, et le dispositif AmaCode. Et au sein de ce dispositif AmaCode, on a trois cellules d'écoute. On a une cellule, elles sont toutes les trois indépendantes, j'ai oublié de préciser, c'est pas la mairie qu'on appelle quand on appelle les cellules d'écoute, c'est piloté par la Ligue de l'enseignement, qui est un service dédié lutte contre les discriminations. Et quand on appelle donc ces cellules d'écoute indépendantes, on en a une pour les Dijonais, pour les Dijonaises, quels qu'ils soient, une qui est spécifique au monde de l'enseignement supérieur, on va dire les étudiants, mais aussi ça peut être les agents et les personnels d'enseignement supérieur. Et après, on en a une pour les agents de la ville de Dijon, la métropole et le CCAS. En termes de... Si je prends le volet enseignement supérieur, par exemple, sur les trois dernières années, on a formé 4000 personnes à la lutte contre les discriminations et aux violences et harcèlement sexistes et sexuels, dont 3700 étudiants et un peu plus de 400 personnels d'enseignement. Et de mémoire, on est sur le sujet en ce moment, 12 établissements partenaires. Le chiffre attendra à grossir, donc je ne sais pas si 12 sera toujours d'actualité à la fin du mois. Peut-être que ça sera supérieur, mais en tout cas, c'était ça l'état en tout cas du sujet avant la prise de fonction.
Et globalement, les habitants de Dijon utilisent ce service, votre connaissance ?
Alors, à ma connaissance, oui, ce service a été utilisé. Je pense qu'il a été sous-utilisé. En fait, c'est-à-dire que l'outil, c'est un bel outil. Et il y a quelques années, quand ça a été lancé, en plus, si je prends certaines thématiques de société, il n'y avait pas autant d'acteurs associatifs qu'il y a aujourd'hui. Et donc, je pense que la MACOD était d'autant plus nécessaire à ce moment-là. Et pour autant... c'est pas les appels, mais c'est plutôt les recours au service ont été, je dirais, peu significatifs. Ah, je dis pas que ça a été peu significatif pour les personnes qu'on traitait d'ailleurs, parce qu'elles ont vraiment traité situations, des nombreuses situations, mais remis à la population de la ville, je me dis qu'on a peut-être encore une belle route devant nous, et c'est très stimulant, parce que du coup, on peut peut-être voir comment faire mieux.
Très bien, donc c'est un dispositif important, original,
oui, très
s'il
original.
En est, et je pense qu'il pourra faire l'objet d'une émission à part entière, parce qu'il y a vraiment la question de la méthodologie, de la confiance, ça sous-entend énormément de qualité, de qualité technique pour que ça fonctionne bien, que ça rende le service attendu.
Et je serais très très heureux d'ailleurs de revenir sur un sujet dédié sur la MACOD. Je vous ai coupé la parole, ça se fait pas, mais comme là on est en train de remonter d'un point de vue juste administratif et politique, on recrée la commission extra-municipale, et de cette commission extra-municipale, du coup, le travail de la MACOD, comme on est en lancement, malheureusement, forcément, et en plus, sachant que je suis un nouvel adjoint, mon regard, il est pas encore si aiguisé que ça. Et je suis convaincu que dans quelques mois, on aura sûrement plus de choses à se dire encore sur la MACODE.
Simplement rappeler ce que c'est qu'une commission extra-municipale.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire une commission extra-municipale ? Alors, en fait, c'est simple. C'est simple. Vous allez voir, ça va peut-être être un peu flou. Donc, est-ce que c'est si simple que ça ? On crée, en dehors des commissions dites municipales, c'est-à-dire qu'on a des commissions thématiques dans l'institution où siègent les élus. Et là, une commission extra-municipale, c'est une commission dans laquelle siègent des personnes en dehors de l'exécutif municipal, eux-mêmes exécutifs ou pas, en dehors de la municipalité. Et donc, dans cette commission, alors c'est la commission de lutte contre toutes les formes de discrimination, on retrouvera des acteurs associatifs, évidemment des élus, et aussi des personnes qualifiées.
D'accord.
Chose qu'on ne retrouve pas dans une commission municipale où on a uniquement des personnes de la municipalité à cette commission.
Oui, ce qui sous-entend... faire attention de l'ouvrir suffisamment pour qu'il y ait des vraies contradictions et des vrais débats et que ce ne soit pas seulement, si on peut dire simplement, la courroie de transmission d'une volonté politique, qu'elle soit bonne ou moins bonne d'ailleurs. C'est ça.
Complètement.
Vous prenez le risque que ce soit un lieu de confrontation et de progression.
C'est ça, exactement. En fait, sans confrontation, je pense que si tout est beau, tout est rose... Et on ne change jamais rien. Mmh. Et je pense que pour que les choses aillent mieux, on a toujours besoin de changer des choses. Donc on prend ce risque-là. C'est un risque qui ne m'effraie pas. Et ce qui n'a pas été simple pour vous dire les choses, c'est réfléchir aux équilibres. C'est-à-dire que comme c'est une commission de lutte contre toutes les formes de discrimination, forcément les personnes qui siègent dans cette commission, qui siègent dans ces associations, en général, c'est des personnes qui sont très concernées par les sujets. Et forcément, elles ont envie de... inconsciemment de traiter en priorité aussi leur sujet, et c'est normal parce que parfois on vient avec des histoires personnelles. Donc là, ce qui a été compliqué, c'est de réfléchir aussi aux équilibres dans cette commission afin que toutes les discriminations puissent s'exprimer sans écraser les autres discriminations.
Alors, puisqu'on parle de discrimination, on va venir sur un sujet qui est d'actualité, malheureusement, à la fois internationale et locale. Localement, donc, nous avons fait à Châlons-Bourgogne un reportage très intéressant lié à l'ouverture d'un centre d'accueil dans le champ des discriminations pour les personnes LGBT. Nous allons en reparler. Donc un centre ouvert par l'État et financé pour l'instant par l'État. La deuxième chose, l'actualité récente, c'est le développement de la criminalisation de l'homosexualité dans des pays, notamment africains, mais pas que. Mais là, c'est parce que c'est l'actualité brûlante. Sénégal, Niger, Burkina Faso... où dorénavant, les gens qui se définissent et qui vivent comme personnes homosexuelles prennent des risques énormes, puisqu'il s'agit de prison et de très longues peines, de condamnations financières exorbitantes. Et on voit qu'il y a là quelque chose qui se passe, qui se trame. Voir un petit peu comment, à Dijon, vous abordez cette question très sensible. En tout cas, j'ai vu que la mairie soutenait évidemment le travail de ce centre d'accueil. Peut-être nous en dire un petit peu plus. Et rappeler aux gens pourquoi ce centre est important. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement LGBT, très concrètement, parce que c'est un acronyme, mais de quoi on parle et de qui on parle ?
Complètement. Je vous remercie Thierry pour cette question qui est assez riche, et je vais essayer de ne pas durer trop longtemps peut-être avec ma réponse, mais en tout cas, ces instances-là, en fait, elles permettent d'agir peut-être pas en intersectionnalité, parce que ça recoupe les mêmes sujets, quoique encore, parce qu'on a de la santé communautaire, mais en fait, on a des associations qui vont adhérer à cette structure, comme on adhère, nous, à une autre structure. Et en fait, le centre mène des actions et coordonne des actions pour les associations, du coup, qui sont bénévoles, au bénéfice des personnes qui sont sur les territoires. Si on prend un exemple d'actualité à Dijon, je sais que c'est un sujet un peu compliqué, le sujet de la marche des fiertés. Traditionnellement, dans les villes en France où il y a un centre LGBT, c'est le centre, enfin LGBTQIA+, pardonnez-moi, c'est le centre qui porte la marche des fiertés, avec d'ailleurs les autres associations. À Dijon, j'ai l'espoir justement que l'année prochaine, avec ce centre, on arrive à rassembler autour d'une marche des fiertés qui soit un peu plus inclusive, qui soit construite en tout cas collectivement avec les acteurs associatifs locaux qui militent en faveur de ces droits-là.
Peut-être expliquer un petit peu l'acronyme, parce que c'est beaucoup de gens que nous rencontrons.
Oui.
Qu'est-ce que c'est LGBT ? Et puis en plus, maintenant, on a rajouté des lettres, notamment.
Pour rien vous cacher, oui, effectivement, il y a plusieurs acronymes. Et en ce moment, tout le monde n'utilise pas le même acronyme. Il y a des associations qui vont dire LGBT+, d'autres qui vont dire LGBTI+. Là, le centre comme il s'est lui-même dénommé Centre LGBTQIA+, dans ses statuts, du coup, j'ai réutilisé évidemment cette appellation-là, qui est celle que moi j'utilise aussi. L'acronyme, ça veut dire lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe. Et le A, j'ai toujours un doute si c'est les asexuels ou les alliés. Et plus, parce qu'en fait, on dit plus parce qu'en vrai, il y a plein d'autres lettres. Ça serait trop long si on les mettait.
Oui, plein de choses que d'autres, que chacun vive.
Exactement, oui. Et ce n'est pas des nouveaux phénomènes. En fait, c'est des personnes qui existaient déjà et qui ont toujours existé et qui aujourd'hui s'autorisent à être davantage qui elles sont. Et du coup, quand on est plusieurs à se reconnaître et à se qualifier de la même manière, c'est normal qu'on fasse communauté sans nécessairement chercher à le faire. Mais...
Alors, pour revenir sur la marche des fiertés, simplement, sans rentrer dans les détails localement, il y a des pays et des endroits où ça marche très bien. D'ailleurs, actuellement, je crois que c'est une période. Je ne sais pas si on est déjà dans le mois des fiertés, je ne sais plus. On y est déjà.
Oui, on y est déjà, oui.
Quand vous parlez de favoriser l'inclusion, c'est-à-dire en fait que tout le monde puisse travailler ensemble et défiler ensemble et faire cette fête ensemble, c'est ça que vous voulez dire?
Complètement. Puis dans les marches, en général, comment dire, c'est comme dans les manifestations habituelles, dans un cortège, en général, on a plusieurs... je ne sais pas comment dire, il y a plusieurs groupes dans un cortège. En général, on a un groupe avec des syndicats, un groupe avec des personnes plus radicales, un groupe avec des associations. Enfin, et normalement, on doit pouvoir marcher ensemble. Ce n'est pas parce qu'on marche avec des personnes qu'on trouve plus ou moins radicales que nous que ça change la qualité de qui on est. L'essentiel, c'est de réussir à se parler. Et là, c'est un peu la difficulté à laquelle on fait face à Dijon, c'est-à-dire que cette année, une grande partie des associations locales n'ont pas été associées juste à l'événement. Des associations qui œuvrent pourtant sur le sujet, y compris le centre LGBTQIA+, à ma connaissance, il n'a pas été associé à l'organisation de l'événement. Donc oui, il y a un sujet sur le vivre ensemble. Et par rapport au centre, j'ai oublié de répondre à votre question tout à l'heure. Donc oui, le centre a été ouvert grâce à une enveloppe de la DILCRA, donc la Délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines LGBT-phobes.
C'est ça.
Et en fait, nous, pendant la campagne, donc il y a des choses qui ne se voient pas pendant la campagne, on est beaucoup sollicité aussi par des associations, des engagements qu'on prend, et la maire avait pris l'engagement auprès des différentes associations qui l'avaient sollicité, donc SOS Homophobie, Aide, Planning Familial, enfin plein d'associations qui l'avaient sollicité. On s'était engagé à soutenir le centre LGBTQIA+, et du coup, les rencontres ont commencé, le dialogue est en cours pour concrétiser ce soutien. Et voilà, là on est en train de mouliner ça, nous, de notre côté, pour leur apporter du coup une réponse et concrétiser les choses.
Donc vous avez une approche universaliste, on peut dire, de cette problématique qui fait que certaines radicalités n'ont pas la place à Dijon, par exemple, qui font qu'à Paris, à certains moments ou dans d'autres villes, des femmes qui se définissent comme juives n'ont pas pu participer à des marches parce qu'elles étaient considérées comme assimilées à la politique internationale d'Israël, par exemple. C'était quand même une très grande souffrance, une très grande difficulté pour ces personnes qui font partie habituellement de cette marche. Donc je pense qu'à Dijon, on n'est pas du tout dans cette logique-là.
Ça m'attriste d'entendre ça parce que, comment dire, l'intersectionnalité des luttes, elle est importante, mais il ne faut pas tout mélanger aussi. Et en fait, je me dis, quand on marche, on veut aussi dire que notre identité et notre expression, qu'elle est comme ça et qu'on veut être respecté pour ça. Et qu'on cherche à ne pas être stigmatisé et on cherche à lever le voile sur les préjugés. Et du coup, quand j'entends des formes de rejet comme celle-ci, je me dis c'est dommage parce que là, c'est des raccourcis et des préjugés et ça va à l'encontre même, de moi, ce que j'espère d'un mouvement comme celui-ci. À la base, la marche des fiertés, c'était Stonewall, c'était des émeutes à New York qui ont duré plusieurs jours, qui ont fait des blessés. Et l'année suivante, il y a les personnes qui se sont rassemblées en commémoration à ces émeutes. Depuis, tout le monde, entre guillemets, évidemment, c'est pas le cas partout, mais globalement, c'est pour ça qu'on marche tous en juin en commémoration à ces émeutes-là. Et quand je vois des marches des fiertés... qui ont des messages, des revendications à rallonge hors sujet, parfois je me dis c'est dommage parce qu'à la base on commémore quand même Stonewall. Je ne dis pas que le reste n'est pas grave, n'est pas important, mais est-ce que c'est vraiment dans les commémorations de Stonewall qu'il faut faire rentrer ces sujets? Est-ce que c'est une bonne idée de chercher à se diviser entre soi? Je ne suis pas convaincu, mais c'est mon opinion très très personnelle.
Très bien. Faut rappeler aussi que le centre d'accueil était ouvert dans un. La ministre qui était là a parlé de la lutte contre l'homophobie, puisqu'il y a le phénomène des guet-apens qui a touché ouais. Dijon aussi. Ouais. Hein, je crois que c'est aussi un souci de la ville de contribuer à empêcher ces rejets violents hein, qui s'expriment par des guet-apens. Peut-être en dire un mot, parce que je crois que.
Oui, ça a été un sujet, et c'est un sujet qui a été très compliqué, je trouve, politiquement. Pas dans le sens défendre sa posture d'élu, dans le sens des valeurs. C'est-à-dire que. Il y a eu différents guet-apens homophobes qui ont eu lieu. Alors, suite à des rendez-vous sur des applications de rencontres, le souci, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, et c'est dommage, c'est qu'en fait, les agresseurs, au-delà de leurs méfaits, ils capitalisent sur la honte de la victime. Et du coup, il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a pas d'enquête. Et en fait, les agresseurs agissent en impunité et se sont complètement protégés par la honte que ressent la victime, qui est totalement inélégitime, même si je comprends les inquiétudes. On a peur de ne pas être pris au sérieux, peur de se livrer trop personnellement à la police. Enfin, je comprends tout ça. Et du coup, malheureusement, ça favorise les agresseurs. Je ne dis pas du tout ça pour jeter l'opprobre sur les victimes. J'ai une pensée bien solidaire pour elles. J'ai rencontré des personnes qui connaissent des personnes qui ont été agressées. Et c'est vrai que c'est dommage. Il n'y a pas d'enquête. Je ne sais pas si la justice peut elle-même se saisir du sujet. Nous, en tant que municipalité, malheureusement, on ne peut pas se substituer à eux pour faire ça, à elles et eux. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, le mot guet-apens aussi, c'est un mot qui est quand même grave. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un fait divers ou d'une bagarre qui dégénère. C'est des gens qui préméditent de faire du mal à d'autres personnes juste pour ce qu'elles sont. Et je trouve que ce mot est vraiment grave. On n'est plus du tout dans le cadre débordement. C'est des violences qui sont ciblées. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que face à ça, notre rejet, il est absolu. Et la ville de Dijon, en tout cas, se tiendra toujours du côté des victimes dès lors qu'elles auront besoin de nous et qu'elles manifesteront. Malheureusement, comme il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de dépôt de plainte, on ne connaît pas les personnes. Donc je ne peux même pas les rencontrer pour échanger. C'est-à-dire que je ne sais pas de qui il s'agit. Et donc, voilà, s'il y a des personnes qui écoutent votre radio, sachez qu'on est avec vous de tout cœur. Et n'hésitez pas à échanger avec nous au besoin, on saura vous soutenir.
Donc, on parlait donc d'homophobie, qui peut prendre effectivement être très, très violente. Et ça fait lien avec la question d'égalité homme-femme. Pourquoi le prochain thème? Parce qu'il y a actuellement le développement d'idéologies masculinistes, par exemple. Qui sont pas sans rapport avec l'homophobie, hein, puisqu'il y a des liens entre certains courants qui se développent dans la société, et pas qu'en France, la haine donc homophobe, mais aussi la haine des femmes. Et on revient donc sur cette question de l'égalité homme-femme. Et puis aujourd'hui, cette problématique est traversée par la question des violences sexistes sexuelles. Évidemment aussi la question des enfants, parce que tout est lié. On sait très bien qu'il y a un rapport entre l'éducation, le parcours et les difficultés actuelles. Alors un petit peu, comment la ville pense continuer à travailler sur la prévention des violences sexuelles excessives, au moins pour les adultes en tout cas, dans un premier temps?
Complètement. Et je vous remercie pour votre transition, parce que j'ai pas eu le temps de me poser pour davantage approfondir le sujet, mais je suis convaincu effectivement qu'il y a une haine commune derrière les discriminations que vous venez de lister dans votre transition, et qu'on retrouve très souvent les mêmes personnes. Alors, que fait la ville pour prévenir les violences sexistes et sexuelles? Alors, juste pour donner un petit peu quelques éléments, on va dire plus institutionnels d'abord, on est assez fiers, donc c'est pour ça que je le fais. On est la première ville, la première même collectivité de France à avoir été double labellisée par l'AFNOR, qui délivre des vraies certifications bien connues. Donc on est labellisé « diversité ». Et un autre label qui est égalité professionnelle femmes-hommes, et sur lequel on a un indice, on est évalué. Alors pourquoi je vous en parle aussi, au-delà de vous dire qu'on est très fiers de ça, parce qu'au-delà de l'avoir obtenu, la démarche même aussi, elle est aussi une fierté d'être allé chercher ces labels. On est actuellement dans la période de renouvellement des labels, donc dès la semaine prochaine, on se rend à Paris pour les auditions, le grand oral. Et le mardi, on a le label diversité, je crois, et le jeudi égalité. Et donc, on est en plein dans ce sujet-là. Et pourquoi je vous en parle, c'est que dans les labels, on a un cahier des charges qui est très strict. Alors, je ne l'ai pas avec moi, mais on a des cinquantaines de pages d'une, d'abord de diagnostic, et le diagnostic il est externalisé avec un cabinet extérieur qui a un regard totalement neuf sur la collectivité, et de ce diagnostic on s'engage sur des préconisations. Et donc, dans les préconisations sur lesquelles on s'en dégage, il y a bien sûr tout un volet à destination des agents en interne et aussi, on va dire, des usagers, les habitants, les écoliers, les écolières. Et donc, il y a tout plein de préconisations avec, par exemple, je cite un exemple, former davantage de telle manière avec tout le programme. Donc, j'ai pas le détail en tête, mais c'est que je suis sur d'autres aspects sur ce sujet en ce moment. Mais je sais que dans le champ de notre compétence, en tout cas, on intervient dans les activités périscolaires, à travers les centres sociaux qu'on soutient aussi, les équipements culturels et tout le soutien aux associations que la ville de Dijon offre justement à ses partenaires. Parce qu'on est convaincu que prévenir l'égalité, c'est aussi apprendre très tôt le respect, le consentement et l'égalité. Alors, vous parlez de virilisme, effectivement, c'est un sujet. C'est pas un sujet que je découvre en tant qu'individu. Mais par contre, en tant qu'élu, c'est un sujet que je découvre qu'il est arrivé trop tôt dans la vie de certaines personnes. Il y a des collégiens pour qui ça devient, enfin des collèges même pour qui ça devient un véritable sujet. Et en fait, c'est arrivé très vite. Je trouve que il y a 2 ans, le problème dans les collèges, c'était les téléphones et tout. Et là, quand on demande, c'est quoi le problème dans le collège, c'est le virilisme. En une année scolaire, il y a eu une bascule où c'est devenu un problème majeur dans certains établissements. Donc, c'est quelque chose que je regarde évidemment avec un regard très inquiet. Et là où je suis quand même optimiste, mais à chaque fois qu'il y aura du progrès en face, il y aura toujours quelqu'un pour tirer la corde dans l'autre sens. Et plus les progrès seront importants, malheureusement, plus les tentatives de repli le seront aussi.
Alors, le virilisme, enfin, le phénomène dont vous parlez, est-ce qu'il est simplement parce qu'on s'y intéresse? Parce que la question des violences entre enfants de 3 ans à 15 ans, c'est 30% des violences graves à caractère sexuel. Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des monstres. C'est des questions d'humiliation, domination. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, mais ça nécessiterait, je pense, une émission complète parce que c'est important de repréciser les mots.
Mais là où c'est
est-ce qu'il y a plus de... Est-ce que vous pensez qu'il y a une montée, ou en tout cas, les enfants sont plus violents? Ils le manifestent, ils le disent, ou est-ce que c'est simplement qu'on regarde un peu mieux cette réalité?
C'est une bonne question et j'ai failli vous couper la parole justement sans savoir qu'on allait dire la même chose. Donc moi, je ne suis pas en contact avec ces enfants en direct, je suis en contact avec des établissements. Alors les écoles, bien sûr, à travers le mandat à la mairie, mais également les collèges du fait de mon mandat au département. Et c'est vrai que c'est devenu une préoccupation réelle pour les équipes éducatives. C'est tout simple, j'ai pas envie de faire de la pub, mais ils nous expliquent, les équipes éducatives, que les enfants regardent des vidéos sur TikTok de personnes virilistes, et après on est obligé de leur réapprendre que non, une femme, une fille en l'occurrence, doit être respectée, et que le monsieur il dit n'importe quoi. Et je trouve ça assez étonnant dans le sens où ils regardent des vidéos de gens qui ont 30 ans au collège, et d'accord, pour autant oui. Ça leur parle.
Donc une amplification liée à ce qui est sur les réseaux. Quoi.
Et ça, j'avoue que je ne m'explique pas ce qui s'est passé et je n'arrive pas à comprendre ce que, à titre personnel, si j'essaie de me mettre dans leur peau, je ne sais pas si à cet âge-là, je me serais identifié à un monsieur de 30 ans qui m'explique les rapports femmes-hommes. Et pour autant, ça, malheureusement, ça rentre dans leur tête.
Très bien, donc le travail est à faire, sachant qu'aujourd'hui, la loi impose que dès l'école, la petite école, on fasse un travail d'éducation à la relation, au respect. Et en fait, malheureusement, c'est très peu appliqué pour l'instant dans le pays. Donc, il y a des paradoxes, c'est qu'on parle beaucoup de projets, on met beaucoup en valeur des problématiques graves, mais dans les faits, ce qui pourrait se passer, se développer positivement, ça a beaucoup de mal à passer actuellement. Et je pense, est-ce qu'il n'y a pas un lien d'ailleurs avec ce déni sociétal, parce que là, pour l'instant, on parle de la police et de la justice, mais est-ce que la société est prête à regarder autrement les choses, à éduquer les enfants autrement? Enfin, c'est pas moi qui vais répondre à la question, bien entendu. Mais je veux dire, là, on a un vrai souci, parce que nous, on va beaucoup dans les écoles. Bon, certains d'entre nous ont été pères de famille, mais on va beaucoup dans les écoles, faire des podcasts, travailler. Il s'y passe d'ailleurs beaucoup de belles choses. Et on se rend compte que cette question-là, en fait, est peu abordée, voire pas abordée du tout.
Alors je sais que nous, il y a des interventions, en tout cas dans les écoles. Je n'ai pas en tête les données ni la qualité des intervenants, des associations qui interviennent. J'en saurai plus à leur entrée, mais je sais qu'avec la MACOD, notamment la Ligue de l'enseignement, il me semble qu'ils interviennent aussi sur ces sujets-là. Alors, effectivement, comme vous l'expliquez, il y a tout un aspect, on va dire, respect de l'autre, égalité, et puis effectivement, il y a plus un aspect qui relève de l'intime, un peu en mode vie affective, ces choses-là. Mais à Dijon, en tout cas... c'est un sujet qui est pris au sérieux et je me dis, dans les engagements qu'on prend et pour lesquels, par exemple, là, on a... mince, je fais du hors-sujet, mais par exemple, récemment, on a re-signé la charte d'engagement de l'autre cercle. Avant, pour le 17 mai, c'est une charte d'engagement, je reviendrai à la question, sur les personnes LGBTQIA+, et en gros, c'est une charte où la structure qui signe, elle s'engage pour son personnel. Donc la mairie et la métropole s'engagent pour leurs agents à respecter tout plein de critères. Auparavant, quand on s'engageait à signer, on avait juste à dire « je m'engage et je signe ». Il n'y avait aucune vérification. Là, c'est tout nouveau cette année. On a dû produire un bilan avec une évaluation. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre du label aussi « égalité femmes-hommes », comme on est en plein dans le renouvellement, on a eu des éléments diagnostiques. Et il y a des préconisations. Et donc, c'est un sujet sur lequel on est obligé de travailler si on souhaite conserver le label. Pour le moment, on l'a conservé. La semaine prochaine, on devrait commencer à en savoir plus. Mais tout ça pour dire que dans les écoles, même si je n'ai pas de précision sur la nature des événements qui s'y déroulent pour apaiser au mieux le climat scolaire, je sais qu'il y en a. Quand on est... Alors, attention, je ne suis pas pédopsychiatre, pas du tout. Hein. Ça, c'est juste une analyse personnelle. Mais parfois... les adultes, on a tendance à mettre un caractère sexuel sur quelque chose qui n'est pas. Parfois, des enfants vont se chamailler, bien sûr que se chamailler, ou même il va y avoir un geste déplacé.
Tout à fait.
Ça ne changera rien à l'humiliation qu'aura vécu l'enfant. Mmh. Je ne change rien du tout à son sentiment et à l'humiliation. Pour autant, par contre, l'acte d'humiliation n'avait peut-être aucune connotation sexuelle dans la tête de l'enfant. Et du coup, c'est toujours un peu compliqué ces sujets-là parce que pareil, quand on parle de consentement, à l'école, clairement, il y a un sujet, je pense, sur le non-consentement. Un enfant peut vraiment ne pas être consentant. Par contre, dire qu'il est consentant, s'il dit oui, est-ce qu'il peut vraiment être consentant, un enfant, s'il a dit oui, j'en suis pas convaincu. Et donc, parfois, on calque des modèles d'adultes sur des modèles d'enfants, et je pense qu'on devrait prioriser l'expression du non-consentement chez les enfants, parce que je pense qu'on peut partir du principe qu'en dessous de 7 ans, même si on a dit oui, est-ce qu'on est vraiment consentant, que ce qu'on en sait.
Vous avez évoqué tout à l'heure la question des violences homophobes et la question des gens qui ne portaient pas plainte pour des tas de raisons que vous avez évoquées. Et sur la thématique du racisme et de l'antisémitisme, on retrouve cette problématique là aussi dans nos rencontres, nos lectures, mais nos rencontres surtout avec les habitants de Dijon et de sa métropole. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sont inquiets, qui sont très inquiets. Alors il y a la caisse de résonance des médias, la télévision notamment, mais réellement les événements sont quand même extrêmement durs. Et des gens qui peuvent être victimes de racisme ou d'antisémitisme, parce qu'il y a actuellement des gens, des juifs qui ont subi des colibets ou des tags, enfin, etc. Et les gens ont beaucoup de mal aussi là à porter plainte. Ils ont peur d'être identifiés et ensuite d'être agressés, ce qui renvoie dans certaines populations, sur diverses populations d'ailleurs, à des inquiétudes anciennes, parce qu'il y a des populations qui sont traumatisées, voire même polytraumatisées, et depuis plusieurs générations. Il faut en tenir compte pour comprendre aussi les paroles, l'attitude des gens. Donc comment la ville, qui déjà, on l'évoquera, fait un ensemble de signaux favorables, comment elle veut continuer à soutenir les différentes populations qui habitent à Dijon?
Là, je vais m'attarder déjà sur le cas des personnes juives, sur l'antisémitisme. Effectivement, il y a beaucoup de citoyens, à juste titre, expriment déjà une grande inquiétude. On a tous en tête, voilà, le 7 octobre, il s'est passé quelque chose. Il y a quand même une bascule, il s'est passé quelque chose. Il y a une étape supplémentaire dans l'horreur qui a été franchie. Et je ne vais pas parler du reste, cet événement en soi, je considère que ça a été une bascule. Et on l'a même vu, nous, en politique, parce que ça a eu des conséquences politiques, cet événement, sur les expressions des différentes formations politiques. Et cette inquiétude, elle doit être entendue, elle doit être prise en compte. Elle est malheureusement légitime, j'ai envie de dire malheureusement, parce que comme vous le dites, on a parfois des communautés qui ont été traumatisées sur plusieurs générations. Si on prend l'exemple des personnes juives... mais aussi, si je prends les gens du voyage, LGBTQIA+, Il y a, malheureusement, à l'époque, les forces de l'ordre ont un peu... Pendant le régime de Vichy, c'est malheureusement des gens qui auraient dû nous protéger qui nous ont conduits parfois à l'enfer. Donc tout ça, je le comprends. Et la peur d'aller porter plainte aussi, on n'a peut-être pas envie de dire « bah voilà, on m'a fait ça parce que je suis ça ». On n'a peut-être pas envie aussi de se dévoiler au risque d'être humilié une deuxième fois. Et ça, je le comprends. Malheureusement, je le comprends. J'espère qu'un jour, on arrivera à lever ces freins-là. Alors, et par rapport au rôle de la ville, bien entendu, là, je répondais pour l'antisémitisme, mais ce que je veux dire, ça marche évidemment pour les deux et même les autres discriminations. Mais je suis convaincu que le rôle d'une ville, c'est de préserver le dialogue, c'est de soutenir des initiatives éducatives, c'est de faire vivre la mémoire. Moi, en plus, j'adore l'histoire, pour rien vous cacher. Et je suis convaincu que... pas citer Machiavel ici, mais je crois que c'est lui qui disait les événements du passé ont les événements du futur ont en tout temps lien avec les événements du passé. Et je suis convaincu que pour comprendre le futur, il faut connaître son passé d'abord. Et donc entretenir la mémoire, c'est aussi se préserver ou au moins s'éclairer. Après, si on y va, on ira de façon éclairée ou pas. Mais c'est condamner les actes haineux lorsqu'il y en a et lorsqu'on est en capacité d'avoir suffisamment d'éléments pour le faire. Et c'est favoriser la rencontre plutôt que le repli. Je suis convaincu que l'opposé de la haine et le rejet, en fait, c'est pas la tolérance, c'est plus la rencontre. Et donc à Dijon, on essaie de favoriser
le dialogue, le partage.
Ouais. C'est pas juste je tolère quelqu'un, c'est pas ça l'opposé de la haine. Je pense que c'est l'accueil et la rencontre. Et du coup, c'est ça qu'on essaie de.
C'est faire vivre l'ensemble des relations entre les citoyens.
Complètement.
Les individus comme les collectifs, comme les institutions. C'est vrai que. Bon, la ville a montré des signes importants à travers les pavés de mémoire, qui est une très belle chose. Et puis l'arbre en souvenir d'Ilan Halimi, qui a été torturé, assassiné il y a quelques années. D'autant plus que les gens des différentes communautés ne souhaitent pas c'est-à-dire que être dans la concurrence des mémoires. Oui. Au contraire, c'est-à-dire que c'est pas, vous l'avez dit d'ailleurs très bien à propos du 7 octobre. Dans le monde juif, il est aussi partagé, aussi divisé que tous les mondes. Les gens sont il y a différentes associations, différents courants. Les gens qui vont en France ne sont pas les gens qui vont en Israël. En Israël, c'est aussi un pays démocratique complexe, mais il y a des débats et des désaccords profonds, comme en France. Voilà. Donc il y a la question de la laïcité aussi, qui est au cœur de... Alors, qui n'est pas nommée comme telle dans votre... délégation, mais...
Si, normalement.
Ah oui, elle est nommée, c'est moi qui dis une bêtise. Donc, c'est pas rien, parce que pour le coup, est-ce que c'est pas ça, la laïcité? Donc, peut-être terminer cet entretien autour de cette thématique de laïcité, qui est quand même peut-être l'élément particulier à la France. Est-ce que c'est pas ça un chemin
qui est très particulier, effectivement, 1905, grande date pour la République, en tout cas, pour cette thématique-là. J'ai oublié de... Je peux peut-être faire un ajout pour la question d'avant aussi. Quand on parlait de mémoire, je n'ai pas pensé à vous le dire, mais on va poursuivre les pavés de la mémoire. Il y en aura d'autres. Voilà. Je n'ai pas le nombre et l'emplacement encore, ni les personnes, mais je sais que ça va être poursuivi. Par rapport à la laïcité, on a tendance, parfois, facilement à se dire c'est le rejet. En fait, ce n'est pas le rejet d'eux, c'est le respect d'eux. C'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas une... déjà, il a la séparation des pouvoirs, mais l'État ne reconnaît pas une religion comme étant une religion d'État. Et il y a une liberté confessionnelle qui est offerte à chacune et à chacun. Une liberté confessionnelle, ça ne veut pas dire il faut ne pas croire. C'est pas ça le message derrière la laïcité. Il faut accueillir l'autre avec ses différences.
Oui, mais c'est la laïcité... bon, je sais qu'il y a des réunions de temps en temps, mais est-ce que... Il faudrait pas faire des conférences. Enfin, en tout cas, redonner, en tout cas chez les jeunes que nous rencontrons dans les collèges et les lycées, il y a un déficit de compréhension et même de travail autour de cette thématique, même si les professeurs font ce qu'ils peuvent, mais dans l'épaisseur des programmes, qui est d'ailleurs, je le redécouvre, terrible. Mais comment c'est juste une question pour la réflexion.
C'est une très bonne question.
On ne demande pas à l'élu une réponse aujourd'hui. Mais bon, nous y sommes très, très sensibles aussi dans cette radio et on aimerait bien contribuer à un nouveau travail, notamment pour les plus jeunes, à un âge où ils sont riches de questions, où ils ne sont pas enfermés encore dans des certitudes, donc on peut encore un petit peu travailler.
Et c'est un vrai sujet, puisqu'on l'a bien vu depuis de nombreuses années, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet, là je raccroche l'autre partie de ma délégation, où à chaque fois c'est la tenue de la femme qui devient un sujet sous le prisme de la religion, mais c'est toujours les femmes pour lesquelles on fait des sujets de société de leur tenue. Donc, on en fait un sujet en justifiant avec la laïcité. Et donc, oui, c'est un sujet pour la jeunesse sur... je pense qu'il y a deux sujets, c'est-à-dire il y a le sujet de qu'est-ce que la laïcité, et là je vais peut-être faire un peu vieux briscard, mais quelle était l'intention, quelle était la laïcité à l'origine et quelle laïcité on veut aujourd'hui. C'est ok de se poser la question, c'est deux questions différentes, je pense.
Je rappelle donc que je suis avec monsieur Billy Chrétien, adjoint à la maire de Dijon, et nous évoquons les thèmes liés à la délégation de monsieur Chrétien, donc lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, laïcité et fraternité. Nous allons bientôt conclure donc cet entretien, et peut-être si vous avez des points que vous voulez réévoquer ou sur lesquels vous voulez insister par rapport au mois à venir, est-ce qu'il y a des événements particuliers ou des choses que vous allez développer ?
Alors effectivement, oui, il va y avoir des événements particuliers. Il va y avoir prochainement, il va y avoir le 25 novembre, après il y aura le 8 mars. On va avoir le 17 mai, on va avoir une date sur la laïcité, un anniversaire, mais je ne l'ai plus en tête actuellement. Si je devais juste avoir un petit mot plutôt pour conclure, d'ailleurs je réalise que j'ai oublié de vous répondre sur l'Afrique.
Vous en prie.
Sur l'Afrique, je regarde ça avec un regard très inquiet, et notamment il y a une criminalisation des identités et des expressions des personnes, et y compris de leurs alliés. Gouverner, c'est plus simple peut-être de façon autoritaire quand on sépare les personnes. On l'a vu à l'époque avec l'Argentine pour les personnes trans, la Pologne et la Hongrie, où la Pologne avait interdit presque un tiers de son territoire aux personnes LGBT avant que ces deux pays finissent par revenir à la raison, en tout cas dans les urnes. Les reculs, ils existent, ils sont là, et en ce moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup de discours qu'on croyait relégués au passé revenir. Donc, nous, en tout cas, on sera toujours là face à ça. J'espère d'ailleurs que la France saisira ou au moins tendra la main aux personnes qui en auront vraiment besoin pour se mettre en sécurité, parce qu'en Afrique, il y a des personnes qui sont véritablement en danger. Et juste pour dire, concernant Dijon, tant qu'un adolescent aura peur d'être lui-même, tant qu'une personne hésitera à tenir la main de celle qu'elle aime dans l'espace public, ou tant qu'une autre personne devra choisir entre sa sincérité et sa sécurité, bah alors notre travail ne sera pas terminé et on sera toujours là.
Je vous remercie, monsieur Chrétien. À bientôt pour certains dossiers que nous avons évoqués.
Avec grand plaisir. Merci à vous, Thierry.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.